Jean-Laurent Truc, bonjour. Donc, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie aux éditions Dupuis de votre deuxième bande dessinée, La danseuse aux dents noires, que vous avez coécrite avec votre cousin Olivier, avec des dessins d'Éric Stalmer. Enlevons directement un doute en ce qui concerne ces fameuses dents noires. Donc, il ne s'agit pas d'une danseuse qui a trop fumé ou qui s'est mal soignée, non?
Non, c'est absolument pas le cas. C'est pas non plus parce qu'elle mâche du bétel ou autre. C'est parce que en Asie, les femmes, pour une question de beauté et de sensualité, peignaient leurs dents en noir, se faisaient peindre les dents en noir une ou deux fois par semaine. Donc c'est un maquillage quelque part, en fait. Voilà, c'est pas du tout lié à l'abus de quelques produits quelconques ou à l'usure du temps.
Alors donc cette BD s'inspire de la mission de votre arrière-grand-père, donc le professeur Hermanter, et qui s'est rendu au Cambodge pour opérer donc le roi d'une cataracte. C'était en 1912. Finalement, c'est autobiographique comme au sein de la famille.
Alors oui, vous avez raison, parce qu'Hermanter Truc a laissé le récit complet complet de sa vie. Alors pas que le voyage au Cambodge en 1912, mais ses origines, ce qui nous a d'ailleurs à nous-mêmes appris d'où nous venions, avant d'aller au Cambodge lui-même. Mais il a donc tenu un journal jusqu'à sa mort de tout ce qu'il avait pu faire, et en parlant des siens aussi. Donc en 1912, il est pressenti par le gouvernement français, par Albert Sarraut entre autres, pour aller opérer Sizovat, qui devient aveugle d'une double cataracte. Alors c'est pas la simple petite cataracte telle qu'on connaît aujourd'hui. Et puis les moyens sont pas les mêmes, évidemment. Et si Sizovat, roi du Cambodge, devient aveugle, il peut abdiquer et le Cambodge peut quitter le protectorat français. Donc c'était aussi non seulement une mission, j'allais dire, humanitaire, médicale, mais aussi une mission politique.
C'est vrai que cette mission d'Hermanter était capitale, puisque s'il échoue, la France perd le Cambodge, et comme on dit dans les hautes sphères, la France vous regarde. C'est assez impressionnant.
C'est impressionnant parce que le patriotisme français, on l'a d'ailleurs très bien noté avec Olivier, on a voulu, parce que c'est vrai, c'est dans les souvenirs d'Hermanter, d'Aliani, Sarraut, enfin, bon, c'est la France, monsieur, hein. Oui, et lui, d'ailleurs, Hermanter est un patriote fervent. Il va donner son fils. Si je puis dire. Non, mon grand-oncle sera tué en 1915. Donc, c'est un homme qui est très bouleversé par sa mission. Il n'y va pas en disant, oui, très, voilà, je vais faire une opération. Non, c'est important, parce que s'il se plante, si vous me permettez l'expression, oui, c'est son image de grand patron d'ostalmologie française qui est en jeu. Il y aura bien quelques petits topins pour dégommer Hermanter Truc. Donc, c'est un patriote, un major médecin, et le tout en 1912, on le dit d'ailleurs dans l'album, et ben aussi sur le, comme toile de fond, la guerre qui bientôt aura lieu 2 ans plus tard, et l'Alsace-Lorraine, qui est un élément important des revendications françaises, alors que les colonies, franchement, ils s'en fichent un peu, quoi.
Finalement, on peut avoir 2 niveaux de lecture, donc la grande histoire avec un grand H, et puis la petite histoire, celle que vit votre aïeul, finalement.
Oui, parce que il en est un élément, alors je n'ose dire capital, bien évidemment, mais un élément quand même, parce que, encore une fois, il joue un rôle dans la grande histoire, tout en lui faisant partie de la petite, parce que son bistouri de chirurgien, de son bistouri va dépendre l'avenir du protectorat indochinois. Et à côté de ça, il y a l'Allemagne qui a des vues, surtout économiques sur l'Indochine, territoriale un peu moins, mais enfin bon, ils auraient pas été cons, sauf que c'était très gênant pour eux, et d'ailleurs, Guillaume II le disait, on a retrouvé des traces, de gérer des colonies aussi lointaines. Ils n'étaient pas très partants, hein, sincèrement.
Ils étaient prêts à l'abandonner.
Oui. Mais bon, l'Allemagne n'a jamais été un pays colonial pur et dur, au sens, à part au Siam un peu, en Chine, mais avec des comptoirs, pas, et en Afrique un tout petit peu.
On pourrait même, finalement, on parlait de deuxième lecture, mais de troisième lecture, quel récit romancé.
Ah, évidemment. Attendez, on n'allait pas se priver de quelques personnages force psychique. Oui, croustillant, j'irais, ben, il n'y a pas d'ambiguïté dans cette bande dessinée. C'est-à-dire que vous le verrez, vous l'avez sûrement vu puisque vous l'avez lu, mais Simala, la jeune danseuse du Ballet Royal, c'est une adolescente, hein, quelque part. C'est pas une femme mûre. Les danseuses avaient entre 14 et 17 ans. Donc, okay. Armentin, il a 5 ans, quand même, déjà, là. Mmh. Donc, je dirais que c'est plutôt des relations, quasi filiales, parce qu'elle voit en lui, et pour X raisons qu'on décrit, sa propre famille, elle voit une sorte de tutelle paternelle qui se dessine et des relations très affectueuses qui se nouent avec Armentin. Alors, croustillant, non, vous avez vu, on a été très petit étanchement. Attendez, c'est ce que vous me faites dire. Non, on a été très, très sale dans cette bande dessinée. On n'a pas du tout joué la carte de, j'allais dire, d'une sorte de...
d'érotisme
latent.
Avec cette licence poétique, vous avez pu, est-ce qu'on aurait pu craindre finalement de déclencher l'irde familiale? Est-ce que vous avez des réunions au sein de la famille préalablement à l'écriture du scénario?
Non, de réunions, non. Mais là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'au départ, avec Olivier, on s'est dit, on va prendre le récit d'Armentin, mais on va changer les noms. C'est-à-dire qu'Armentin, il s'appellera, je me souviens plus comment, on change tout. Et là, sa mère d'ailleurs, ma tante, puisque maintenant, malheureusement, il n'y a plus de nos tantes qui soient des héritières directes, j'allais d'Armentin, à part nous bien sûr, mais a dit non, si vous faites ça, il faut absolument que vous gardiez les noms, que qu'on soit dans la réalité la plus totale. Et à juste titre, parce que là j'ai eu, il y a deux jours, un mail d'une arrière-petite fille, mais d'une autre branche de la famille, de Tino, qui, et ils sont en extase, tous, si vous voulez, sur le fait qu'on ait raconté la vie authentique d'Armentin, et cet élément très particulier du voyage de Cambodge.
Le traquenard, la recherche de la cocaïne, le guet-apens dans lequel tombe l'assistant, c'est directement sorti de votre imagination débordante?
Débordante, je vous l'accorde. Elle est débordante, vous savez. Bon, on est journaliste aussi, quand on ne fait pas actualité, quand on n'a pas accueilli suffisante, on la crée. La cocaïne est pour cause, parce qu'évidemment, Armentin, il débarque là-bas et tout ce qu'il faut. Et la cocaïne, c'est pour des anesthésies locales, parce que bien, l'œil, il faut quand même l'endormir. Tout ce qui est, vous parliez ensuite de l'autre élément, c'est le.
Mais donc il y a le guet-apens.
Alors le guet-apens. Oui et non, parce que le guet-apens, Armentin a failli laisser sa vie dans d'autres guet-apens. Quand il faisait le tour de la Méditerranée, il avait été attaqué, il avait dû se défendre à coups de revolver contre des pillards en Afrique du Nord ou en Syrie, je me souviens mal, parce que en 1910, il fait le tour de la Méditerranée pour faire passer des thèses. Il va en Turquie, il va au Liban, parce que c'est un protectorat, en Syrie. Et là, il prend le train de Damas jusqu'au Caire. Il fait pyramide, c'est moche. Et il continue, il fait tout le bassin méditerranéen. Et il est attaqué. Il est attaqué dans au Maghreb, je ne sais pas où exactement, mais s'en sort à coups de revolver. Alors donc, on a pris cet élément, et on l'a transcrit. La canne épée authentique. Alors,
bon, ben oui, alors.
On vous allez en parler. Alors, n'en dites pas trop, quand même. La canne épée existe, voilà.
Alors, Olivier parle de combats qui opposent les historiens eux-mêmes dans leur rapport à l'usage de la fiction pour éclairer le fait historique. Quel est votre point de vue par rapport à cette question?
Moi, ça ne me gêne absolument pas. Je suis un lecteur, par exemple, très suivi de tous les polars qui se passent en Allemagne dans les années 30, de Kerr, par exemple, de Philippe Kerr, la trilogie berlinoise ou autre, qui prennent carrément, alors, avec les personnages sur leur propre rôle, les personnages célèbres, ça peut aller des potentats nazis, de ce qu'on verra, mais à côté de ça, ils collent un flic qui, lui, va se trouver confronté à dans ce contexte historique, à des intrigues, à des enquêtes. Donc, moi, j'adore. Je trouve qu'on a toute liberté. À partir du moment où vous ne faites pas de remise en question, où finalement vous ne jugez pas de l'histoire, vous vous en servez comme support, tout. Il n'y a pas de souci. C'est pas de l'uchronie, hein. C'est pas remettre en question, réécrire l'histoire. C'est se servir de l'histoire comme décor de théâtre. Et là, vous mettez vos propres personnages qui jouent leur rôle.
La conspiration grouille, on peut dire. Donc, il y a les Allemands, le prince rebelle, les Siam, les bonzes. C'est un vrai nid de vipères là-dedans. Et en plus de ça, le deuxième bureau qui s'y mêle.
Alors, il fallait bien qu'il y ait... alors, nid de vipères, oui, c'est le mot juste. Et c'est vrai, ça il le dit, Armentaire. Hein. Il sait très bien, quand il est convoqué à Paris au ministère, que là où il va mettre tes pieds, même si lui n'est pas l'habitude de la chose, on le prévient, il dit, monsieur le professeur, attention à vous, attention, parce que vous allez être sujet à toutes les pressions et à tous les complots éventuellement, entre les bons, la politique, la famille royale, les concubines, c'est il y a 200 concubines quand même, hein, donc bon, il fume 50 à 100 pipes d'opium par jour quand même, ce garçon, il boit, il le dit à Armentaire, je sais pas combien de litres de whisky, c'est un schizovate, c'est un...
Oui. Une nature.
Et là-dessus, le prince Outentor existe aussi. Il suffisait de tirer les fils et de s'apercevoir à travers même le récit d'Armentaire que tout était possible. Tout était possible et on n'a pas eu de mal finalement à rendre tout ceci crédible sur fond encore une fois de grande histoire.
Alors en cas d'échec là, il craint finalement plus pour l'image de sa famille et lui-même et le regard de ses confrères que la raison d'État, en tout cas au début, non ?
Vous n'avez pas tort. Mais je pense que c'est un
grand patriote. En tout cas,
c'est un grand patriote. Tant qu'il part là-bas, il dit, mais attendez, moi, si je me plante, ça, si je me plante, le table de dire, si mon bistouri dérape, moi, monsieur le professeur Armentaire Truc, sommité quand même. Il faut quand même penser qu'à l'époque, les grands patrons de médecine, ce sont des sommités nationales et internationales. Teste mes confrères, mes confrères vont dire, vous avez eu, Truc, il est allé là-bas. Ah, il aurait mieux fait, il aurait mieux valu que ce soit moi. Donc, ensuite, il dit, attendez, moi, je vais là-bas parce que je suis patriote aussi. Il va pas là-bas, vraiment, ni pour l'argent, hein. Ça lui a absolument rien rapporté. Il est presque de sa poche. Tant qu'il va là-bas, hein, il paye pratiquement son séjour. Il y va parce que on lui a bien expliqué aussi que si Sisovat, j'avais dit tout à l'heure, perd la vue, Indochine peut basculer. Les Allemands sont en embuscade. Les relations internationales sont spéciales, mais elles sont pas joyeuses. Patriote, mais soucieux quand même pour sa famille et pour son avenir professionnel de ce qui pourrait se passer s'il réussit pas.
Et le cas de conscience au point à un certain moment de risquer de faire échouer l'opération, c'est de l'imaginaire ou réellement c'est dans les écrits?
D'après vous, non. Non, il fallait, si vous voulez, que Armentaire ait encore une fois au bout de son bistouri l'avenir de cette histoire, son propre avenir. Non, c'est tout à fait. Alors, il est très inquiet quand il opère. Ça, dans ses récits, c'est évident. Il sait pas tout ce que le résultat va donner. On a mis d'ailleurs, j'ai relu l'album, on a mis des détails vraiment extraits hein, de son récit qui chirurgicalement est très pointu. Il sait pas ce que ça va donner. Il est pas sûr de lui. Vous savez, moi j'ai toujours entendu autour de moi, chez tous mes familiers chirurgiens ou autres, que quelque part, c'est pas une science exacte la médecine. Hein. On fait tout ce qu'on peut, mais attendez monsieur, moi je peux pas vous garantir que vous allez remarcher, que vous allez revoir, quoi. Mmh. Donc il y a un très gros doute et ce doute n'est levé. Mais évidemment, il n'a pas eu un instant, je dois pas le dire, mais il n'a pas eu un instant la tentation de crever l'œil de Sisovat parce que parce qu'il y a un chantage quelque part ou parce que on aurait pu envisager que comme ça c'est un peu dans les films actuels, ah oui mais la famille d'ailleurs on en parle justement avec Marseille à l'heure actuelle, les familles de Marseille, la pression même au mortel sur des membres d'une famille qui veulent lutter contre la côte africaine, on a très bien pu dire aussi on aurait pu faire un truc, non.
Alors, il y a un côté tellement rocambolesque que parfois on se dit, mais est-ce que c'est bien réel? On a l'impression de tomber dans Adèle Blanc-Sec de Tardy ou Jules Verne du Tour du Monde, non?
Mon ami Jacques, on est très très amis, ça me fait très plaisir que vous parliez d'Adèle et de Jacques. Oui, il y a un côté, effectivement. Moi, faut que j'envoie l'album, Jacques. Il y a un côté un peu rocambolesque. On n'a pas mis encore de ptérodactyle volant dans la danseuse. Mais ça va être tout s'enchaîne un petit peu comme un rouletabille. Il faut de l'action, il faut du sentiment, il faut des décors, il faut le temps d'encore, il faut une fusillade ou autre. Enfin bon, c'est voulu, c'est tout à fait voulu.
Bon, outre la médaille d'officier de l'ordre royal du Cambodge,
commandeur.
Alors, est-ce que vous avez d'autres souvenirs ayant appartenu à votre aïeul, notamment la fameuse canépée?
Oui, canépée, absolument. C'était mon infirmière qui l'avait. Alors, je pense qu'elle est chez mon oncle. Moi, j'ai un souvenir enfant de l'avoir sorti sous le regard très attentif de mon aïeul. Grand-mère, mais il avait ramené aussi de très belles boîtes en argent de que lui avait offert le roi, des boîtes à opium ou autre, j'en sais rien, pas de très très beaux objets qui ont été distribués. Je crois que ma sœur en a une. Il a pas ramené. Ah, vous savez ce qui nous gêne le plus dans cette histoire? On n'a pas de photos. À part les photos de Jemis que moi j'ai du roi de Thioum, le ministre du palais. Je ne comprends pas comment on n'a absolument aucune photo de son séjour au Cambodge. Je ne comprends pas. Je pense que cet album, à la suite d'une maison, d'une succession ou autre, c'est peut-être glissé quelque part, si tant est qu'il y en ait eu un, et qu'il a disparu. Mais on n'a pas de preuves photographiques, puisque toutes celles que j'ai, c'est des photos relativement officielles. Il y a des erreurs d'ailleurs, parce que la séance d'escrime, c'est pas mis qui est dessus, c'est dans le parc, notre...
C'était une fine lame. Hermenter, c'était une fine lame.
Ah oui, mais il a toujours dit à mon grand-père, il faut être capable de alors le mot exact est l'épée, la langue doit être aussi pointue que l'épée et aussi dangereuse que l'épée, mais l'épée doit pouvoir servir si
ah oui. Il a besoin. Parce que en préparant cette interview, j'ai vu que le duel s'était terminé en 1834 finalement. Donc
oui, mais là c'était pas un duel. Oui, oui. Entre nous, c'est des séances d'escrime. Mm-hmm. Bien sûr, le duel. Mais je pense que c'est un homme qui n'aurait pas hésité pour l'honneur, son honneur aux honneurs de famille, à dégainer l'épée. Enfin, c'est une génération ou le pistolet et l'épée plutôt. Je vois mal le pistolet. J'ai trouvé, hein. J'ai trouvé des boîtes de pistolets de duel. Grenier chez mes grands-parents, qui a un très très gros, qui avait un très bel hôtel particulier au centre de Montpellier que lui-même a fait construire en 1900. Non, ça oui, absolument.
Pour parler justement de l'absence de photos, comment avez-vous travaillé avec Eric Stallner et est-ce que dès le départ vous avez établi une méthode de travail?
Alors, la méthode de travail, c'est avant tout déjà tout ce qu'on pouvait lui fournir avec Olivier, de documentation et de pistes éventuelles. Mais c'est lui qui a quand même, en particulier pour Phnom Penh, ça lui a posé un problème. Il y a très peu de photos. Saïdon, vous avez tout ce que vous voulez. À telle époque que ce soit, Phnom Penh, c'était un gros patin. Hein. Faut pas croire, c'était pas une capitale démesurée où on se pressait. Donc là, il a eu... encore non plus, parce qu'encore, moi, j'avais une forte documentation photo d'époque, en noir et blanc, mais lui a eu besoin de beaucoup travailler les paysages cambodgiens et pas le Palais Royal, parce que le Palais Royal aussi, on a beaucoup de cartes postales, de photos, ils en toutent pour qu'elles viennent danser en France quand il fait une visite en 1900. Il revient d'ailleurs après la guerre en 1920 ou 23, je ne me souviens plus. Il revient faire un voyage. Et d'ailleurs, j'ai un extrême journal où on parle de Sisovat, dont le professeur Trude a sauvé la vue. Non, c'est surtout le Cambodge qui était vraiment paumé, quoi. Je crois qu'il y a peu de gens qui savaient grosso modo. Autant on savait où était Saïdon, Hanoï, mais Luang Prabang, hein. J'y suis allé, on dirait une sous-préfecture des françaises. Ah, c'est des maisons. Toutes les maisons sont des petits pavillons années 30 sur la rue principale. Je veux dire, sous-préfecture française. Phnom Penh, dont je sais pas aller, mais il y avait très peu de documentation. Et là, Stalner a eu du boulot.
En tant que journaliste, reporter passionné par l'Extrême-Orient et la BD, la danseuse, finalement, ça rejoint toutes vos passions, non?
Oui. Ma grande passion a été toujours à lire Nanushin, française, donc 45 vers 74, parce que justement, le meilleur ami de mon père s'est fait tuer il est mort. J'ai énormément travaillé sur le sujet, avec beaucoup d'articles dans mon journal, beaucoup de recherches. Mais bon, vous savez, quand chaque fois que je suis allé à Hanoï ou que je suis monté sur les hauts plateaux tonkinois, tout seul, pour ma femme, mes filles, enfin, je veux dire, c'était pas du grand reportage, c'est pas une guerre du Golfe, quoi. Ça, c'est autre chose. Mais il y a une ambiance ramineuse fantastique. Le tourisme n'a pas encore tué totalement le Nord. Hanoï, bon, j'y suis allé il y a 10 ans. Il paraît qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Alors qu'Hanoï, bon, moi j'y vais, j'ai l'impression d'être allé à Hanoï en 54. Saïdon, non. Saïdon, c'est Shanghai. Oui. C'est tout à fait autre chose. Il y a un parfum, l'Asie. Vous savez, parce que tous les copains de mon père, qui était militaire italien, l'Indochine, et vous y alliez, vous en tombez amoureux. Et c'est inévitable. Et tous ces types qui sont allés, pour une seule raison, se battre en Indochine, et tous des professionnels, je pense à 2 ou 4, en sont revenus amoureux du pays. Il n'y a pas un que j'ai pu connaître. J'ai dit, mon Dieu, ils étaient tous prêts à y retourner. Il y a une sensualité absolument débordante. Et une gentillesse aussi, de la population des Indochines.
Oui. Est-ce que cette BD répond à un devoir de mémoire?
Non. Pas du tout un devoir de mémoire. Si c'en est un, parfait. Olivier en a eu l'idée, encore une fois, et on s'est lancé à corps perdu dans cette aventure. Si maintenant, effectivement, moi je l'ai dédicacé à mes 3 petits-fils, c'en est un, et si, comme on le voit autour de nous, ah bon, oui, Erlan Tertrude, avait une page méconnue, intéressant, la faculté de médecine de Montpellier. Bon, ça, il le sait bien, je suis d'accord, il y aura des pires, des taux de l'eau tiède. Tant mieux. Devoir de mémoire, tant mieux. Mais vous savez, on a tout tellement mis de choses dans le terme, devoir de mémoire, que le moment où je reste très méfiant.
Jean-Laurent, un grand merci. Donc, on rappelle La danseuse au dents noires, paru aux éditions Dupuis-Lemercy.
C'est moi qui vous remercie.